Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Bukavu, au Sud Kivu. Au sommaire de ce journal, dans la province de la Tchopo, la 31e région militaire engage une lutte sans merci contre les véhicules dépourvus de plaques minéralogiques et ceux à vitres fumées. Trois jours après le déclenchement de cette opération, plus de 50 véhicules sont déjà saisis. Insécurité dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Le commandant urbain de la police nationale congolaise affirme que sa recrudescence est entretenue par des mains noires qui veulent tout simplement saboter les animateurs de l'état de siège. Le commissaire supérieur principal Jean-Fabien Sébastien Kaouma pointe du doigt certains hommes politiques. L'invité de ce journal est le ministre provincial en charge de la santé et des affaires humanitaires dans la province de la Tchopo. Bernadette Foura parle des sinistrés, des inondations, des déplacés, des conflits intercommunautaires qui ont besoin d'une assistance humanitaire pour leur survie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans la province de la Tchopo, la 31e région militaire engage une lutte sans merci contre les véhicules dépourvus de plaques minéralogiques et ceux à vitres fumées. Trois jours après le déclenchement de cette opération dénommée « Zéro véhicule sans plaque » d'immatriculation en circulation dans la ville de Kisangani, plus de 50 véhicules sont déjà saisis. Ils sont mis à la fourrière au service de renseignement militaire. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'opération « Zéro véhicule sans plaque d'immatriculation en circulation dans la ville » tire sa légitimité de l'arrêté de Madame le gouverneur de province du 28 avril dernier, lequel interdit non seulement la circulation des véhicules sans plaques, mais aussi ceux à vitres fumées. Selon le service de renseignement militaire, la gouverneure de province a instruit les commandants de la 31e région militaire, le général-major Timothée Mujinga, pour l'application stricte de cette disposition. L'objectif visé est de lutter contre la criminalité dans la ville de Kisangani et son interland. Des véhicules saisis figurent ceux d'un avocat et d'un conseiller de l'autorité provinciale, comme pour dire que cette disposition réglementaire est opposable à tout le monde, sans exception. Par ailleurs, l'officier de renseignement militaire précise que le retrait de tout engin saisi est conditionné par le paiement de la plaque d'immatriculation à la Direction provinciale des impôts. Une fois présentés ces documents, le propriétaire du véhicule signe le procès verbal de retrait et récupère immédiatement son engin. Aucune pénalité ou tout autre frais ne lui est exigé. Et de souligner que cette opération se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y aura plus aucun véhicule sans plaque ni vitres fumées en circulation dans la ville de Kisangani. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, les enseignants continuent à vivre le calvaire. Ils totalisent à ce jour 4 mois d'arriérés de salaire. Conséquence, la plupart de leurs enfants n'ont pas pu participer aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023. Présentement, d'autres ne sont pas admis aux examens de fin d'année au secondaire, soit aux épreuves de mi-session dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. La situation concerne notamment les fonctionnaires et enseignants de Bassankoussou, Bolomba, Makanza, Bikoro, Lukolela et Yumbi, lesquels sont payés par l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD, la Banque catholique et la Caritas. Le député provincial élu de Bolomba, Peter Lopossé, dénonce cette discrimination. Il est au micro de Paul-Richard Malengela.
La fois passée, on était passé ici pour présenter la même situation. Trois jours après, on a payé les gens. Est-ce qu'il faut payer les gens? Il faut des pressions? Non. Le salaire a un caractère alimentaire, inaliénable, c'est-à-dire le salaire doit être permanent à la date fixée par la loi. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Aujourd'hui, je tiens à interpeller les autorités nationales, le premier ministre qui est le chef du gouvernement, le ministre du budget, le ministre des finances et celui de l'EPST, afin qu'ils puissent s'impliquer pour décanter la situation de la vie sociale de mon territoire. C'est parce qu'on ne peut pas préjudicier une catégorie de gens et privilégier une autre. Je demande que les autorités qui me suivent, même le comité national de suivi des payes, de s'impliquer que les territoires de Bolomba, Makanja, Bassankoussou, les fonctionnaires et les enseignants ne sont pas payés mensuellement. Si les enseignants ne seront pas payés après ma déclaration, les députés qui sont au niveau national, je vais les contacter. Parce qu'après la déclaration, les autorités vont payer les enseignants de Bolomba. Sinon, ça sera une tentative de détournement.
Le gouvernement Sambalou Kondé n'a enregistré aucune arriérée de paiement des assemblées provinciales depuis son investiture. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances au cours de la plénière de lundi dernier au Sénat. Pour Nicolas Kazadi, les quelques arriérés existants jusqu'à ce jour dans le PMA des assemblées provinciales datent du gouvernement Ilunga et Lunkamba que le gouvernement actuel s'attelle à appuyer. Pour ce qui est des arriérés de cette année 2023, le ministre des Finances rassure que les ordres de paiement ont déjà été signés et même déjà exécutés pour certains mois entre janvier et avril. Nicolas Kazadi est au micro de Michel Kifindangoy.
Depuis janvier jusqu'à ce jour, nous avons effectivement payé janvier, février, avril et mars est à la banque, déjà signé également. Nous n'avons pas au ministère des Finances, au moment où nous parlons, un quelconque paiement, un DTO, qui concerne les assemblées provinciales ou les provinces qui n'a pas été signé. C'est ça la réalité. Pour ce qui est des arriérés passés, depuis le gouvernement Samalou Kondé, nous n'avons pas accumulé un seul arriéré vis-à-vis des assemblées provinciales, pas un seul. Le dernier arriéré, c'était décembre 2022, qui a été payé au courant de cette année. Nous avons trouvé par contre des arriérés, le gouvernement Ilunkamba. Nous avons réduit d'environ 5 mois ces arriérés. Nous ne les avons pas complètement terminés, mais ça c'est des arriérés que nous avons trouvés. C'est un stock d'arriérés que nous avons trouvés. Mais le gouvernement Samalou Kondé n'a pas accumulé un mois d'arriérés concernant les députés provinciaux.
L'Assemblée nationale déclare recevable le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant impôt sur les sociétés et les revenus des personnes physiques. Au cours de la plénière d'hier mardi, le président de la commission économique et financière de cette chambre a fait observer que le système fiscal congolais actuel contient quelques handicaps, notamment sur la responsabilisation des personnes physiques. La nouvelle loi institue désormais un impôt à la fois sur les revenus globaux de la société et sur les revenus individuels de chaque personne physique travailleur, explique Boris Mboukou. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
S'adressant à toute la représentation nationale, le président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale explique que le régime fiscal actuel renferme quelques faiblesses en cours de correction. Boris Mboukou.
Ce système ne favorise pas la responsabilisation individuelle des citoyens dans le paiement des impôts. Et enfin, ce système ne permet pas à la République démocratique du Congo d'être en conformité avec le standard international en vigueur dans la plupart des États et ne facilite pas de ce fait la négociation de conventions fiscales relatives à l'élimination de la double imposition entre États.
Et c'est pour remédier à ces inconvénients que l'Assemblée nationale examine ces réformes initiées par le gouvernement, explique Boris Mboukou.
La présente loi introduit des dispositions concernant la déclaration de l'impôt sur les sociétés et sur les revenus des personnes physiques. Désormais tous, nous devons à la fin de chaque année déclarer l'impôt, bien qu'à la fin de chaque mois, on opère immédiatement une retenue à la source.
Une fois adopté à la Chambre basse, ce projet de loi sera transmis au Sénat pour un second examen avant sa promulgation par le chef de l'État.
Il est temps pour la population et les autorités du Tanganyika de s'unir et de cesser des guéguerres inutiles pour le décollage de la province. Propos de Christian Kitungwa, cadre du parti ACO, tenu hier mardi à son arrivée à Kalemie. En outre, il indique que la population devrait désormais faire un bon choix de ses représentants à l'Assemblée provinciale. Christian Kitungwa fait cette déclaration sur fond d'une crise institutionnelle qui secoue la province du Tanganyika. On l'écoute au micro de Paul Emunanga.
C'est un constat très amer et au demeurant, je dirais que c'est une leçon pour la population du Tanganyika qui doit désormais comprendre comment faire un choix par rapport aux élus. Pour nous, nous disons tout simplement que c'est la province qui perd parce que nous n'arrivons pas à décoller. Personne ne viendra construire la province du Tanganyika à notre place. Personne ne tombera du ciel pour venir construire cette province. La province du Tanganyika va se construire avec la sueur de fils et filles du Tanganyika. Donc il est temps qu'on prenne conscience, il est temps qu'on se concentre, qu'on laisse des guéguerres, qu'on laisse de calomnies, qu'on soit tous unis pour une cause et pour faire élire le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, pour son deuxième mandat. Et il est temps pour nous, fils et filles de Tanganyika, de faire quoi? De nous unir autour de notre dénominateur commun qui est le Tanganyika. Pour que la crise ne persiste pas, allons aux élections.
Une pénurie d'eau perdure dans la commune de Lemba, précisément dans les quartiers Salongo et Rigini depuis une dizaine d'années. Ce phénomène est devenu un mode de vie pour les habitants qui occupent ces quartiers. La régie des eaux semble inexistante dans cette partie de la ville. Les détails avec Jemima Mbuyulu.
Cela fait pratiquement 12 ans que les habitants de plusieurs avenues de ces quartiers vivent sans l'eau de la régie des eaux. Il s'agit notamment des avenues Moussoualou, Biangala, Mulumbakachi, Kiko et autres. Ils se sont plaints plusieurs fois mais sans succès. Leur robinet est sec depuis 2010. Ils ne vivent que de l'eau de forage comme le témoigne cet habitant.
À l'époque, tous les soirs et tous les matins, nous avions de l'eau. Depuis 2010-2011, on n'a plus rien recyclé. Les amis qui ont des forages nous permettent de vivre, mais la régie des eaux est quasi inexistante dans notre quartier.
Le directeur provincial de la régie des eaux explique que pour desservir l'ensemble de ces deux quartiers, il faudrait que l'usine qui les alimente fonctionne de façon continue de 8 à 10 heures du temps, ce qui n'est pas le cas actuellement. Jacques Matundu assure que l'entreprise fait tout pour y remédier au plus vite.
Et pour que Riguigny et Salongo puissent avoir de l'eau, nous avons deux stations de repompage. Il faut que l'eau arrive d'abord au niveau de stations de repompage et à partir de là, on dessert maintenant nos abonnés qui sont sur de parties hautes, notamment Riguigny et Salon. Ce n'est pas que nous faisons ça sciemment, mais la régie des eaux est consciente de cette situation. Nous sommes en train de rassembler ce qu'il faut comme matériel pour résoudre ces problèmes-là de monde.
Les habitants sont donc appelés à prendre leur mal en patience.
Insécurité dans la ville de Beni, au Nord Kivu. La police sort de son silence. Le commandant urbain de la PNC affirme que la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Beni est entretenue par, je cite, des mains noires qui veulent tout simplement saboter les animateurs de l'état de siège. Lors d'un échange hier mardi avec des journalistes à Beni, le commissaire supérieur principal Jean-Fabien Sébastien Kaouma a pointé du doigt certains hommes politiques récemment nommés maire ou bourgmestre par le chef de l'état et qui souhaitent la fin de l'état de siège pour occuper leurs fonctions. Accusation rejetée en bloc par les autorités incriminées. Gulen Kassassia nous en fait le point.
Devant la presse de la ville de Beni, le commandant urbain de la police nationale congolaise a nié toute accusation indexant la police dans l'insécurisation de la ville. Selon lui, cette situation serait plutôt orchestrée par certains politiques nommés récemment par le chef de l'État et qui souhaitent la fin de l'état de siège pour occuper leurs fonctions. Par ailleurs, le commissaire supérieur principal Jean-Sébastien Kaouma reconnaît que ces derniers jours, l'insécurité bat son plein dans la ville.
C'est pas la police qui est à la base de l'insécurité. Ce sont des mains noires, des politiciens et des gens qui étaient nommés par les chefs de l'État pour être des maires et des bourgmestres qui sont en train d'inciter la population à la désobéissance civile, à faire toutes ces histoires-là, qui créent des actes de sabotage pour dire non à l'état de siège et qu'eux, ils commencent leurs activités en tant que des civils pour être élus.
En réaction, Bernard Kampale Kapitula, un des bourgmestres nommés par le chef de l'État dans la ville de Beni, estime qu'il s'agit des accusations gratuites.
Nous demandons à ces commandants d'apprêter ces éléments de preuve parce qu'on ne peut pas accuser les nominés comme ça.
Pour rappel, depuis ce mois de juin, 4 personnes ont été tuées, plusieurs maisons dévalisées et de biens emportés. Le dernier cas en date est celui d'un homme tué au Katebutanuka la nuit du lundi au mardi. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Au moins 2 morts et 2 personnes enlevées. C'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans la nuit de mardi à ce mercredi dans la chefferie de Bachou en territoire de Beni. C'est précisément à Kalivouli, dans le groupement de Masiki Vayana. D'après le député provincial Saïdi Balikoucha, élu du terroir, ces assaillants ont exécuté leurs victimes à la machette et au marteau sans tirer un seul coup de feu. La force de la coalition des FARDC et UPDF serait intervenue mais en retard, indique la même source. La province du Sud Kivu bénéficie du programme de l'agenda de la transformation agricole. Ce programme du chef de l'État est mis en œuvre par l'Institut international pour l'agriculture tropicale, IITA, un laboratoire agricole qui travaille pour la production et la dissémination des semences de bonne qualité. Le gouvernement provincial du Sud Kivu dit profiter des services de ces deux laboratoires agricoles pour son programme prioritaire en cours. Les points sur ces laboratoires agricoles, avec vous Emmanuel et la Mejoua Kabedi.
L'Institut international de l'agriculture tropicale est un laboratoire moderne et bien équipé en recherche agricole. Actuellement, il exécute l'agenda de transformation agricole, programme du chef de l'État, Jacob Mignouna, chef de station.
L'Institut international d'agriculture tropicale que nous avons ici sur le site de Kalambo, qui passe d'abord par la recherche, par le développement des semences, c'est ce que le ministre a pu voir ici, le bébé manioc qui sert à la production à grande masse du manioc qui est un aliment de base en RDC. C'est l'agenda de la transformation agricole en RDC. C'est un programme du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il est temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Il s'agit donc de transformer l'agriculture pour que la RDC en tant que pays puisse maintenant produire assez que pour nourrir sa population.
L'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, fait le diagnostic du sol pour déterminer déterminer sa performance. Il analyse les aliments nutritifs, évalue les carences et propose des recommandations pour la production agricole. En dehors du soja, du maïs, des lignames et des bananes, l'ITEA produit près d'un million de plantules de manioc in vitro dans moins de 3 mois. Ceci impacte positivement les paysans environnants de ce laboratoire agricole implanté à Kalambo dans le territoire de Kabare. Emmanuel Lamijoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Mali, les anciens rebelles maintiennent leur opposition au référendum constitutionnel. Les autorités de transition ont annoncé un vote le 18 juin. Il sera organisé partout, sauf dans certaines zones du nord contrôlées par les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, notamment Kidal et Menaka. L'Algérie, la Sierra Leone, le Guyana et la Corée du Sud ont été élus hier mardi sans concurrent pour siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en 2024-2025, tandis que la Slovénie a battu largement les Bélarus pour le seul siège disputé.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre provincial en charge de la santé et affaires humanitaires de la province de la Tchopo. Bernadette Foura parle des sinistrés, des inondations et des déplacés des conflits intercommunautaires qui ont besoin d'une assistance humanitaire pour leur survie. Bernadette Foura s'entretient avec Jacques Moukonkoli.
Madame Bernadette Foura, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Une réunion qui vient de se tenir tout à l'heure avec les humanitaires, OCHA en tête, OMS, UNICEF, la société civile santé et des autres. En quoi a consisté cette rencontre?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cette rencontre consiste à pouvoir valider les données. Parce que nous avons vu que si nous continuons à travailler à vase clos, ne permettra pas à ce que les partenaires viennent en appui. Et c'est pourquoi, par les canards de son Excellence, Madame la gouverneure de province, nous avons convoqué cette réunion pour mobiliser les partenaires et à venir en aide aux victimes d'abord des inondations d'Isangi, des victimes des conflits opposant les deux communautés, Mbole et les Ngola.
Et quelles sont les données que vous avez validées?
Et aujourd'hui, nous avons validé les données des populations déplacées, 339 294 et 49 273 personnes retournées dans leur case suite au message de mobilisation, au message de paix que nous avons mené sur terrain dans les deux tronçons Ubundu et Opala.
Et pourquoi les autres hésitent encore à rentrer? Encore un grand nombre qui reste sur place à Kisangani.
Non, il y en a d'autres dont leurs maisons ont été incendiées et dont le gouvernement provincial continue à mobiliser des ressources pour venir en aide à toute cette population. Et ceux qui sont rentrés, ils ont trouvé leur maison. Leur maison n'était pas incendiée.
On a parlé dernièrement du service de génie militaire ou génie de la police qui devait procéder à la réhabilitation de ces maisons-là. Est-ce que cette opération de réhabilitation a déjà commencé?
Non, cette opération n'a pas encore commencé, mais je sais que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir commencer déjà cette activité.
Au niveau humanitaire, vous vous êtes réunis, vous avez validé les données. À quand l'intervention sur le terrain?
Je crois que demain, il y aura remise officielle des intrants au niveau du ministère des Actions humanitaires. Je crois que tous ces matériels, les intrants seront remis ici pour que la descente commence déjà au niveau du site.
Quand vous parlez des intrants, à quoi faites-vous allusion exactement?
Il y a des bidons, il y a des bâches, il y a des moustiquaires, il y a de quoi, wash, il y a aussi beaucoup de jerrycans qu'on amène. Pour que on sait que la population est vraiment maîtrisée, la population vraiment est à la merci de toutes les intempéries. Alors, par conséquent, ce que nous allons amener va résoudre le tant soit peu les problèmes de la population, les difficultés qu'ils connaissent au niveau de leurs milieux respectifs.
Est-ce qu'on peut savoir d'où ça vient, qui vous a apporté cet appui, cette assistance?
Et d'abord, nous avons commencé par le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a mobilisé aussi ses moyens. Et il y a d'autres moyens qui nous viennent des partenaires, UNICEF, OMS, SANRU, donc APEC. Ils nous ont amené plus de 1000 moustiquaires. Mais ici, nous voyons, OMS nous a amené 4 tonnes des intrants.
Est-ce qu'on peut dire que les besoins de déplacés seront quand même couverts ou c'est un soulagement? Il y a encore beaucoup à faire peut-être?
Monsieur le journaliste, je crois que c'est un processus. Quand les choses commencent, ça doit continuer. Et ce que nous avons amené, quand je dis nous avons amené, c'est le gouvernement provincial et les partenaires peuvent encore couvrir un peu le besoin urgent. Les besoins urgents, on doit quand même faire quelque chose. Mais le processus continue parce que, comme je l'ai dit au début, il y aura. Vous avez posé la question de savoir si les maisons seront construites. Effectivement, ce n'est pas aujourd'hui ni demain, mais on doit quand même savoir un peu faire quelque chose de très précaire pour que la population puisse regagner leur milieu d'origine. Et il y a aussi, comme on a dit, les problèmes de l'alimentation. Ça pose problème. Aujourd'hui, tous les villages du côté des territoires ont été inondés. Et c'est pourquoi nous avons invité Otia pour qu'il fasse des centres sur terrain avec les autres partenaires, voir de quelle manière ils peuvent revenir, ils peuvent appuyer les communautés qui sont mises.
Madame la ministre en charge de la santé, affaires humanitaires dans la Tchopo, merci.
C'est à moi plutôt de vous remercier, messieurs les journalistes.
C'était l'invité de ce journal, le ministre provincial chargé de la santé et affaires humanitaires dans la province de la Tchopo, Bernadette Foura, s'entretenait à Kisangani avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal, merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.